ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous retrouvez Dégenré, votre émission féministe préférée sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et je suis en compagnie de Caro et de Ernest, qui nous fait la technique pour toute la soirée. Et moi, c'est Cynthia. Et on va vous parler d'un bouquin de Sama Karaki qui s'appelle « L'empathie est politique ». Du coup, dans le contexte actuel, vous savez, les médias, quel que soit le média que vous regardez ou que vous écoutez ou que vous suivez, il y a énormément de discours qui sont écœurants. Et en fait, ça donne envie de se pencher un peu sur ce livre et de voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte. Parce qu'en vérité, on a l'impression que ce qui est raconté dans les médias, on peut avoir l'impression que ça coule c'est du bon sens, ça coule de source, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, il y a cette autrice, Sama Karaki, qui est neuroscientifique, qui nous a sorti ce bouquin « L'empathie est politique », après un autre bouquin qu'elle avait fait sur « Le talent est une fiction ». Et on voulait parler de ce bouquin pour remettre un peu en question, en perspective, tous les discours qu'on a en général dans le média. Et du coup, il y a Caro qui est là et qui a épluché le bouquin. Et du coup, on va vous en parler un peu plus tout de suite.
Sama Karaki, elle est neuroscientifique, mais ce qui est intéressant dans son bouquin, c'est qu'elle allie à la fois des sources d'expériences neuroscientifiques et psychologiques et qu'elle relie ça également à des travaux sociaux. Dans la première partie de son livre, elle va chercher à définir de quoi on parle quand on parle d'empathie.
Et ouais, il faut commencer par la définition.
Et elle va définir différentes notions qui sont sœurs, cousines de la notion d'empathie. Elle parle en premier du mimétisme, qui est une capacité que l'on a à synchroniser nos attitudes avec celles des autres personnes, qui ont été mesurés par exemple en électromyographie faciale. C'est-à-dire on mesure les mouvements des muscles du visage et on voit que les personnes vont inconsciemment imiter les expressions les unes des autres. Elle parle de la notion de contagion émotionnelle ou résonance émotionnelle. Ça, c'est ce qui se passe quand on va ressentir les mêmes émotions que celles qu'on observe chez les autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mesurable par IRM. C'est-à-dire, on se rend compte que quand on souffre soi-même et quand on voit une personne souffrir pour laquelle on a de l'empathie, alors c'est les mêmes zones associées à la souffrance qui s'activent dans le cerveau. Elle parle également de l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais cette fois-ci par des raisonnements conscients, plus que directement par les émotions. Et une troisième notion qu'elle définit, c'est la préoccupation empathique. Ça, c'est la réponse que l'on peut avoir en voyant autrui souffrir. C'est être ému par son état et avoir envie d'avoir un geste altruiste vers cet autre. Et elle parle des notions de sympathie et de compassion, qui ressemblent à la notion d'empathie, mais dans sympathie, pour elle, il y a une notion non seulement de partage d'émotions, mais aussi de partage des valeurs, quand on dit un sympathisant. C'est quelqu'un qui a les mêmes opinions politiques que soi. Et pour faire la synthèse de tout cela, elle dit que l'empathie, elle a à la fois une dimension émotionnelle, comprendre les émotions de l'autre, les ressentir, une dimension cognitive, comprendre la situation de l'autre, et elle peut amener ou pas, on en verra plus après, à des gestes altruistes. Et dernière chose importante qu'elle affirme à propos de l'empathie et de la psychologie en général, c'est qu'il y a quelque chose d'arbitraire dans la séparation entre, d'un côté, les émotions et, de l'autre, la cognition. Et je vais vous lire le passage du livre où elle explique cela. La croyance en une dichotomie entre la raison et l'émotion nous a pendant longtemps empêché de comprendre que les émotions sont porteuses d'informations et qu'elles régulent la perception à travers une évaluation constante de ce qui nous parvient du monde, sa comparaison avec ce que nous avons préalablement appris. Ainsi, les émotions ne sont pas des pulsions anarchiques, mais un calcul précis des erreurs de prédiction entre ce qu'on vit et ce qu'on s'attend à vivre. Ainsi, si on s'attend à être en sécurité dans un environnement, l'apparition d'un danger produit une erreur de prédiction qui se traduit par une émotion de peur. Si on s'attend à être traité avec dignité et qu'on se retrouve humilié, on éprouve une erreur de prédiction qui se traduit par une émotion de peur ou de colère. Nos émotions sont donc des indicateurs rationnels de la façon avec laquelle on expérimente le monde. Et plus loin, elle dit que, contrairement à ce que défendait une vision rationaliste de la moralité, ce n'est pas du côté des processus cognitifs et de compréhension des règles morales et des capacités de raisonnement à leur sujet qu'il faut chercher les ressorts de notre moralité, mais plutôt du côté de nos émotions. Et que la cognition et l'émotion sont des processus complémentaires plutôt que distincts ou antagonistes, que les émotions ne surgissent pas du vide mais qu'elles résultent d'apprentissages passés et que la raison elle-même n'émerge pas d'un ordre fixe établi, mais de ces apprentissages passés que les émotions informent. Et c'est pour ça que l'on ne peut pas dissocier empathie émotionnelle et empathie cognitive.
Ok. Et ben peut-être on va écouter des petits extraits où on a un peu ce qu'elle dit aussi par rapport à ces thématiques-là.
La deuxième raison, c'est que cette projection dans la perspective de l'autre n'est jamais en fait réelle. Je ne me projette jamais dans le vécu de l'autre. Je suis toujours en train de voir l'autre à travers ma propre expérience. Donc en quelque sorte, il y a une forme de... Je séquestre l'expérience de l'autre en la renvoyant à ma propre expérience et à ma propre interprétation. Et peut-être une troisième, dernière raison, c'est que l'empathie peut devenir une forme de tourisme affectif dans lequel on regarde l'autre souffrir. L'autre, il est un objet figé dans sa souffrance. On lui enlève en fait toute la complexité de son histoire, et cela revient juste à soi-même vivre une forme d'expérience, d'élévation morale qui, encore une fois, ne mène pas à l'action.
On ne réagit pas avec la même intensité en fonction de qui on est en face.
Ouais.
Et là, elle vient d'expliquer un des paramètres, c'est le paramètre de proximité.
Oui, parce que du coup, on s'identifie plus facilement aux personnes avec lesquelles on est censé être proche, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et du coup, on va s'écouter encore un autre extrait.
Quand on parle, par exemple, de différenciation de traitement entre des réfugiés ukrainiens et des réfugiés syriens ou des réfugiés éthiopiens, il y a toujours cet argument de proximité. Ça veut dire, oui, mais on va dire c'est normal d'attribuer plus d'empathie aux personnes qui sont proches géographiquement, aux personnes qui sont proches culturellement. Le danger, c'est de s'arrêter à cet argument de proximité et de ne pas rajouter des couches politiques à cette différenciation, parce que cette catégorisation, elle reste horizontale. Elle reste horizontale, mais par contre, il faut rajouter aussi une catégorisation verticale dans laquelle on place les gens dans une hiérarchie de dignité de vie, de valeur de vie. Et c'est là où, en fait, on va attribuer moins d'empathie aux personnes que nous considérons moins humaines que soi.
Et oui, mais en même temps, c'est un peu plus compliqué que ça.
Mmh. Ouais. Comme elle dit, il y a à la fois la proximité, mais à la fois la hiérarchie. La proximité, ça a été démontré, par exemple, quand on a vu que même les enfants, par exemple, étaient plus empathiques pour les enfants du même sexe qu'eux. Et cette proximité peut même être construite sur des catégories totalement arbitraires. Je pense à des études qu'elle cite, par exemple, concernant des supporters d'équipes de foot, qui ont plus d'empathie pour les supporters de la même équipe que ceux de l'équipe adverse. Mais le monde est parcouru d'inégalités et de domination systémique. Et donc
c'est un petit peu plus compliqué que ça, et on peut s'en rendre compte en écoutant ça.
Peut-être l'exemple le plus simple, c'est le rapport que les hommes peuvent avoir avec les femmes. Nous vivons dans une même société, dans un même foyer.
Oui, là, il n'y a pas de distance géographique,
il n'y a pas de distance ni culturelle, voilà. Mais il y a une infra-humanisation. Il y a quelque chose qui justifie une forme de détachement de ce que vivent les femmes pour certains hommes, qui s'explique aussi par une construction sociale dans laquelle les femmes n'auraient pas la sensibilité nécessaire, donc elles seraient objectivées. Et c'est ça aussi, objectiver, c'est enlever l'humanité de l'autre.
Donc oui, là on voit que d'un côté on est censé réagir un peu en miroir avec les gens qui nous sont proches, et on est censé avoir une plus grande proximité avec des personnes avec qui on partage la même culture, tout ça, mais en même temps, comme l'exemple qu'elle donne, qui est un exemple qui peut parler à n'importe qui, on est très proche aussi culturellement, on a beaucoup de similarités entre les personnes d'une même société, mais en même temps y a quand même une hiérarchie entre les hommes et les femmes, par exemple, ou entre les adultes et les enfants, ou entre les valides et les non-valides, enfin, tous ces différents biais de domination, en fait.
Voilà, on ne peut pas dire que les hommes machistes
sont victimes de violences sexuelles
parce qu'ils n'ont pas de proximité avec les femmes. Bien sûr que non, les femmes sont dans leur famille.
Mmh. Oui. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, du coup, ce qui suscite l'empathie, c'est le résultat, en fait, c'est construit. C'est le résultat d'une construction, c'est d'une morale qu'on voudrait croire naturelle, en quelque sorte, mais qui ne l'est pas forcément. Et du coup, on peut écouter un autre extrait par rapport à ça, pour cette idée.
Justement, parler de cette empathie sélective dans la communauté allemande qui se nazifiait en quelque sorte et qui, en parallèle d'une augmentation, d'une déshumanisation face aux sujets juifs, augmentait en favoritisme intragroupe. Ça veut dire que plus on rejetait la communauté juive du sac de l'humanité, et plus il y avait une forme d'élitisme qui montait, une forme de narcissisme collectif qui montait, et un attachement à l'identité, donc à cette catégorie sociale qui devenait pour laquelle on va réserver notre empathie.
L'extrait qu'on vient d'écouter, en fait, il parle de empathie inversée. Comme on a vu, le problème avec les personnes qui ont une vision du monde suprémacisme, c'est pas que ces personnes manquent d'empathie en général, c'est qu'elles ont de l'empathie pour leur propre groupe, au détriment d'autres groupes. Mmh. Et on peut même mesurer ce phénomène d'empathie à l'envers, et je vais lire l'extrait dans lequel elle développe l'idée. La Schadenfreude, expression formée à partir de Schaden, le préjudice, et Freud, la joie, qualifie le plaisir ressenti face au malheur des autres. Lorsqu'on interroge les gens à ce sujet, chacun se rappelle non seulement l'avoir ressenti, pendant la course, mon rival a trébuché, c'était si drôle, mais également avoir pensé que les autres le ressentaient à ses dépens. En réalité, l'intérêt neuroscientifique pour la Schadenfreude est relativement récent. Les études menées depuis ont permis d'explorer la nature fascinante de cette émotion. Lorsqu'on la ressent, différentes zones du cerveau travaillent ensemble pour traiter des éléments sociaux, émotionnels et complexes de ce sentiment. Dans une étude, on a pu constater que le striatum ventral, un élément clé des circuits de la récompense du cerveau, est activé chez des participants lorsqu'ils observent une personne détestée en train de vivre un malheur. Le tableau n'est pas glorieux, mais il est établi scientifiquement que nous pouvons en effet tirer un certain niveau de plaisir ou de satisfaction en assistant au malheur des autres, en particulier si nous nourrissons des sentiments compétitifs à leur égard. D'autres études ont permis de montrer que plus les personnes sont dominantes socialement, plus elles éprouvent de la Schadenfreude envers les groupes perçus comme inférieurs. Encore plus fascinant, Des chercheurs ont démontré que des personnes dominantes socialement sont prêtes à supporter des coûts pour leur groupe afin de faire souffrir davantage le groupe externe. Pour le dire autrement, une personne qui a une vision hiérarchique du monde est susceptible de faire des choix délétères pour ses propres intérêts si elle a l'assurance que ceci pourrait nuire au groupe adverse. Nous détenons ici une clé qui nous permet, par exemple, de comprendre les motivations de certaines personnes issues de classes sociales précaires qui votent pour des partis qui ne servent pas leurs intérêts économiques, mais dont les politiques nuisent aux intérêts du groupe qu'ils conçoivent comme adverse, perçu comme inférieur.
Et là, on pense au FN ou au RN.
Et c'est cela dont elle parle dans le chapitre juste après. Que pour comprendre les motivations des personnes précaires qui votent RN, il fallait pas chercher à voir leur propre intérêt économique, car en effet, le RN a voté pour des lois qui compliquaient la vie des personnes précaires, mais regardez plutôt au niveau des motivations identitaires. L'électorat du FN est prêt à voter contre son intérêt pour pénaliser les populations qu'il estime non légitimes.
Les autres.
Je propose que l'on passe une petite musique. Qu'en penses-tu ?
Tout à fait, c'est une bonne idée. Alors, du coup, c'est un morceau que t'as choisi, qui est un morceau de Julia Ottmer, et c'est une reprise de Sting, d'une chanson de Sting qui s'appelle Russians. Tu veux raconter le contexte de la création de cette chanson ?
C'est une chanson qui a été écrite en 85 dans le contexte la guerre froide, qui dénonce la doctrine de dissuasion nucléaire. Et dans cette chanson, on chante qu'on espère que les Russes aiment leurs enfants et comment Sting savait que les Russes aimaient leurs enfants quand il était étudiant. Il regardait la télévision russe. Mais avec le décalage horaire, il voyait les programmes de jeunesse. Et il s'est rendu compte de la qualité des programmes de jeunesse soviétiques et donc de l'amour que les Russes devaient porter à leur jeunesse.
On écoute ça.
There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of a Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say it to you, I hope the Russians love their children too. We share the same biology,
of ideology. What might save us, me and you, is if the Russians love their children too.
Du coup, vous écoutez toujours Dégenré sur Radio Campus Grenoble 90.8 et on vient de s'écouter du coup une mise en abîme de reprise. C'était Julia Hautmer qui reprenait Sting, qui lui-même reprenait Prokofiev. Et donc, dans la première partie, on a parlé, on a essayé de définir un peu ce que c'est l'empathie et de dire aussi que, en fait, ce qui suscite de l'empathie, c'est en fonction de notre morale, qui n'est pas forcément universelle. On a des biais de compréhension du monde, d'interprétation du monde, et ça, ça fait que on a une empathie qui est orientée. Et voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'on est abreuvé de tout plein de discours d'empathie biaisée dans les médias.
Mais ouais, qu'est-ce qui oriente l'empathie ? Parce que l'empathie, c'est forcément envers d'autres personnes, et quand c'est pas des personnes que l'on croise directement dans la vie, c'est des personnes dont on a connaissance des histoires via les médias. Or, les médias sont conçus par des personnes qui sont biaisées. Mmh. Un exemple qu'elle a donné dans son livre, c'était une étude sur comment étaient traités les portraits des accusés dans les médias états-uniens en fonction de si les accusés sont blancs ou sont noirs. Qu'est-ce que cette étude a montré ? Que les accusés blancs avaient plus tendance à être nommés par leur nom et leur prénom, que les accusés noirs avaient plus tendance à avoir leur photo qui apparaît et avaient plus tendance à être décrits comme des pères, des maris, des personnes qui ont une famille, des amis. Or, on a vu que toutes ces choses, ça joue sur le biais de proximité. Mmh. Et c'est ainsi que les personnes sont amenées à avoir plus d'empathie envers les accusés blancs, et c'est ainsi que le racisme peut se perpétuer au travers des médias.
Et oui. Et on pense à cet exemple-là, celui de la justice, mais il n'y a pas que cet exemple-là qui serait pertinent.
Plus on a des connaissances sur l'autre, plus on a son visage, son nom, son âge, et plus on va avoir de l'empathie, biologiquement. Biologiquement, je vais avoir plus d'empathie pour une victime plutôt qu'une masse de victimes. On parle de l'effet de la victime identifiable. Donc tout ça, je vous le dis, analyser dans le sens où, et d'ailleurs, on peut le comprendre en pensant à l'attention. C'est-à-dire, je vais avoir plus d'attention pour quelqu'un qui m'est présenté comme complexe, comme voilà, c'est ce que Judith Butler dit, comme endeuillable. Et Judith Butler travaille beaucoup sur les victimes du 11 septembre comparées aux victimes afghanes qui ont suivi, et elle parle du principe de famille. Ça veut dire qu'on va parler de la famille de ces victimes. Pourquoi ? Parce qu'on a tous et toutes la capacité de s'identifier à ça. Quand on dit père de famille, enfant d'eux, et quand on valorise le fait que ces personnes ont existé dans une complexité de vie. Et donc, non seulement on est dans une hiérarchie de vie, mais on est dans une hiérarchie de la souffrance qu'on peut vivre dans le deuil de ces personnes. Que humaniser, ce n'est pas dire que l'autre est parfait. C'est dire que l'autre a des raisons de faire ce qu'il fait. C'est dire que l'autre est complexe, qu'il a été poussé. En fait, c'est un peu ce qu'on fait pour soi. Quand on commet des actes, on se dit « oui, mais ce qui m'est arrivé, ça ». Et déshumaniser, c'est renvoyer l'autre à son geste, à son intention, et donc
faire sa caractéristique.
Et d'en faire une caractéristique essentielle, fongible, entre tous les groupes de ceux qui lui ressemblent.
Et oui, et donc du coup, on pense à, ça renvoie du coup à l'exemple que tu dis sur la justice états-unienne, qui peut être à deux vitesses en fonction de la couleur de peau ou de la classe sociale, mais ça fait aussi penser au traitement médiatique, notamment, bah, évidemment, de ce qui se passe en Palestine, évidemment.
Et une chose encore plus évidente qui biaise l'empathie, c'est quelles sont les histoires qui sont racontées et quelles sont les histoires qui sont tues. Mmh. Combien de temps est consacré dans le journal, dans le JT, à tel ou tel type de victime ? Ce dont on n'a pas connaissance, on ne peut pas empathiser pour.
Eh oui.
Et c'est ainsi que les cadrages médiatiques et politiques peuvent faire réduire l'empathie envers certaines personnes ou certaines catégories de personnes lorsqu'elles sont déshumanisées. Et l'extrait vient de, d'expliquer ce que c'est que déshumaniser une personne. C'est lui refuser sa complexité.
Refuser de voir qu'en fait, elle, comme toute personne, en fait, nos actes ont des raisons. En fait, c'est croire qu'une personne est foncièrement violente parce qu'elle a de telle origine ou ce genre de choses. Et c'est là aussi qu'on voit, ça fait penser du coup au traitement de, médiatique de ce qui se passe du coup, comme je disais, en Palestine. Parce que justement, les interlocuteurs israéliens voulaient absolument qu'on soit dans l'émotion suite au 7 octobre et qu'on ne pense pas du tout à un enchaînement d'histoires, un enchaînement d'événements qui ont mené à... Et ils voulaient pas du tout qu'on parle des noms des victimes palestiniennes, il ne pouvait y avoir que des chiffres qu'ils remettaient systématiquement en question, ou qu'ils remettent toujours en fait systématiquement en question. Et du coup, voilà, on ne peut pas poser son cerveau, il n'y a pas de, c'est pas objectif quand on regarde les médias, quoi.
Et une autre chose qui biaise l'empathie et dont parle l'autrice dans son livre, c'est la mentalité victimaire, le fait de se sentir victime. Elle consacre un chapitre à ce thème et explique que les sentiments victimaires ne sont pas forcément liés à être traumatisé. On peut être traumatisé sans avoir de sentiments victimaires, on peut en avoir sans avoir été traumatisé. Et qu'on peut avoir ces sentiments tout en faisant partie d'un groupe social dominant. Et que quand on a ces sentiments, alors on peut avoir son empathie envers l'adversaire restreinte et on peut refuser de voir en quoi l'adversaire a des raisons, en quoi on a causé du tort. Et donc, en quoi la réaction, ce que fait l'adversaire est en fait une réaction à ce que l'on a fait soi-même. Et l'autrice parle ainsi de groupes qui peuvent cultiver une forme de mentalité victimaire qui peut ensuite justifier des actes envers les adversaires déshumanisés, à la fois dans le cas des attentats du World Trade Center, qui ont ensuite conduit à la légitimation de guerres qui ont causé des victimes civiles afghanes. Et bien sûr, dans le cadre de la situation entre Israël et Palestine et de la réponse israélienne aux attentats du 7 octobre. La victimisation servant de justificatif aux actes et de refus de remise en question.
Ça fait penser aussi aux exemples de ce qu'on voit beaucoup sur Internet, des masculinistes aussi, qui se comportent comme s'ils étaient victimes des féministes ou des femmes, et que du coup, ça permettait de justifier des tas de trucs dégueux qui font vers les femmes et tout.
Et une autre chose que je pourrais ajouter à propos des biais cognitifs et de comment ils peuvent être entretenus par les médias, c'est qu'elle détaille dans plusieurs chapitres comment fonctionnent les principes d'erreur d'attribution.
Ok.
Elle donne l'exemple des hommes et des femmes et que quand les hommes échouent à des choses typiquement masculines, alors cela sera mis sur le compte de la malchance situationnelle. Dans le cas des femmes, cela sera mis sur le compte de l'incompétence. Moi et les personnes de mon cercle, si on réussit, c'est par nos qualités intrinsèques ou alors par notre talent. Quand on échoue, c'est la malchance. Et inversement, les autres... Quand les autres réussissent...
C'est de la chance. Et quand ils échouent, c'est de l'incompétence.
Voilà.
D'accord. Ok. Je proposerais bien de s'écouter une autre petite musique. Et du coup, je vous propose d'écouter Ciara. Et c'est un vieux morceau spécial dédicace à une copine qui s'appelle Like a Boy.
2007. Ladies, I think it's time to switch roles. The trash, getting your cash like I'm fast, like a girl. You wanna act like it is. Security codes on every
Switch up the roles, and I could be go that ahead. Be just like go run the street, just like come home just to sleep, like I'm creep, like I'm fun with your friends that call when you with them, like I'm keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles, and I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be? As I'm out, 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. Yeah, had a thing on the side. Made you cry. When the rules change up, but would they still apply? If I played you like a toy, sometimes I wish I could act like a boy.
Can't handle that. Can't handle that. Can't be getting mad. What you mad? Can't handle that.
I was always gone, hit the sun, beat me home. Told you I was with my crew when I knew it wasn't true. If I act like you, won't come out off in your shoes. I'm messing with your head again, dose of your medicine.
Vous écoutez toujours Déjanré sur Radio Campus Grenoble 90.8 et on continue du coup notre arpentage, on peut dire, du livre de Sama Karaki qui s'appelle L'empathie est politique. Et du coup, là, on s'était quitté juste avant l'extrait musical sur l'idée que notre empathie, elle est biaisée par nos différents points de vue, de comment on est construit, mais que aussi, on pouvait influencer le niveau d'empathie qu'on pouvait avoir envers des groupes ou d'autres en humanisant ou en déshumanisant les personnes en racontant par exemple en racontant plus d'où vient une personne et ce qui a motivé ses actes, ou alors en essentialisant davantage la personne, ses actes, en fonction de sa nature ou de sa race ou que sais-je. Et du coup là l'idée, on va enchaîner avec une autre partie du livre, qui c'est plutôt de dire que l'empathie a un coût. Ça, on croirait que c'est positif, que ça permet d'agir bien moralement, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça.
Cette partie s'appelle « Trop d'empathie, tue l'empathie mm-hmm. » et dans cette partie, elle dit différentes choses. Elle dit que l'empathie, en tant que capacité à ressentir les émotions des autres, et donc de souffrir par procuration en quelque sorte, c'est quelque chose qui peut s'épuiser, et ça a été mesuré en particulier pour les soignants. Mmh. On a mesuré que plus les soignants étaient confrontés à la souffrance, moins leur réaction empathique pouvait être importante. On pouvait aboutir à ce qu'elle appelle un burn-out apathique et ne plus être capable d'empathiser avec les patients-patientes quand on est en position de soignant. Ça amène à réduire la qualité des soins.
Mmh. Et oui. Et du coup, oui, c'est pas forcément évident de pouvoir garder une bonne qualité de soins si on est trop atteint par une situation.
Déjà, ça, c'est analysé. Je montre plusieurs études sur le fait que si soi-même, on est en train de souffrir, notre attention pour celle des autres, elle diminue. Et on est préoccupé, en fait. Il faut toujours penser cela comme une forme d'un réservoir d'énergie qui est épuisable et que je montre des études, même si on a passé une mauvaise journée, à la fin de la journée, on a moins d'empathie que si on a passé une bonne journée pour un même cri de bébé. Pour un même cri de bébé, si j'étais fatiguée, et il suffit de faire un calcul mental fatigant pour que je n'entende plus les cris de bébé. Donc, pour vous dire que, à quel point, au sein du même individu, cette quantité d'empathie va dépendre de la quantité de stress que je vis, de la quantité de préoccupation. Ça aussi, ça questionne beaucoup les conditions de travail des personnes qui sont dans les métiers du soin ou dans les métiers du journalisme, qui, en fait, à qui on doit penser qu'ils doivent être en situation de disponibilité mentale, parce qu'ils peuvent et elles peuvent être préoccupées par leur propre détresse.
Et oui, donc voilà, en fait, ça peut être fatigant, on peut ne pas arriver on peut penser davantage, en fait, à se mettre à l'abri soi-même quand une situation suscite chez nous beaucoup d'empathie, parce que c'est fatigant, et du coup, on peut plus davantage penser à se mettre à l'abri soi-même plutôt que de résoudre la situation à laquelle on est confronté.
Un autre contexte dans lequel elle analyse ça, c'est les personnes qui regardent, notamment sur les réseaux sociaux, des contenus très émotionnels qui montrent de la violence et du carnage. Et elle dit que dans la construction même de ces types de médias, les contenus les plus émotionnels sont valorisés parce que c'est eux qui vont générer le plus de clics. Mais quand on est une personne face à ces médias, alors on peut être amené à se dire je n'en peux plus de voir de la souffrance, je n'en peux plus de voir de la douleur, et au lieu d'avoir un geste altruiste, tout simplement choisir de fermer l'ordinateur, d'éteindre la télé.
Mmh. Et paf, on est à nouveau au calme. Et du coup, ça fait que on file les difficultés au lieu de chercher à les résoudre.
Quand est-ce que l'empathie n'est pas souhaitable ? D'abord, c'est quand elle fait. L'empathie, c'est un travail. C'est un travail émotionnel. C'est quelque chose que je vais vivre comme un travail qui va me donner l'illusion d'avoir fait ce qu'il faut. Et donc, en fait, cela, par exemple, est extrêmement analysé dans le milieu du soin, dans le milieu du journalisme, que l'exposition à de la souffrance, en fait, fait que je vais être submergée par une forme de détresse qui finit par me faire préoccuper par moi-même, par rétablir mon propre confort émotionnel, plutôt que l'acte de bien opérer, par exemple, des gestes de soins. Donc, c'est ce qu'on appelle une érosion de l'empathie ou une fatigue de la compassion qui, à force d'exposition à la souffrance, fait que non seulement je vais être moi-même en souffrance de seconde main en quelque sorte, mais aussi la qualité du soin va diminuer.
Et du coup
Là, c'est les cas où avoir de l'empathie, ça n'emmène pas vers des gestes altruistes. Mmh. Et ça rappelle comment l'empathie, ça peut être aussi une démarche assez nombriliste et voire dominante. De l'empathiseur, empathiseuse blanche derrière son ordinateur, qui regarde la souffrance des autres qui sont réifiés et dont les questions ne sont plus de quoi les autres ont besoin, mais comment je fais pour mieux me sentir moi. Et comment on peut oublier que l'empathie, ce n'est qu'une projection. Mmh. Et que la meilleure façon de savoir ce dont l'autre a besoin, c'est de lui demander directement. Mmh. Et comment l'empathie, ça amène à s'identifier à l'autre par une réduction de la distance entre moi et l'autre. Et comme un appel à une humanité commune, qui est une approche qui peut complètement gommer les différences, les conflits, la domination, la violence. Mmh.
Et donc, par rapport à ça, enfin, elle préconise en fait l'idée que ce serait pas forcément la meilleure chose de chercher à développer l'empathie. On pense par exemple à Gabriel Attal qui veut développer des cours sur l'empathie.
Ouais, j'ai regardé ça qu'au Danemark, il y a déjà des programmes d'enseignement d'empathie à l'école qui existent. Mm-hmm. Dès 2018, il y avait une journaliste du Huffington Post qui se réjouissait de ces cours d'empathie et qui parlait en tant que coach et de formatrice que son taf, c'était d'apprendre aux dirigeants d'entreprise à communiquer avec empathie les plans sociaux.
Waouh, on est ravis.
Avec les bons mots. Et qu'à la dernière rentrée scolaire, les programmes d'empathie ont commencé à titre expérimental dans certaines écoles. On peut voir le contenu de ces formations sur Eduxol, c'est public. Uh-huh. Et on voit que c'est une approche de coaching.
Ok.
C'est-à-dire, les adultes ont, comment on appelle ça pour les salariés, les savoir-être à valoriser. Mmh. Et les élèves, avant ça, ont des CPS, des compétences psychosociales à cultiver.
D'accord.
Et donc, c'est des activités pour apprendre aux élèves à prendre confiance en elles, en eux, raconter ce dont elles sont fières. Des activités pour apprendre à prendre des tours de parole, faire des exercices collaboratifs, apprendre à résoudre des conflits, en faisant appel à la négociation pour arriver à un consensus. Mais qu'est-ce que promettent ces approches? C'est marqué noir sur blanc que négocier pour trouver ensemble un consensus, ça permet d'avoir des relations équilibrées et, je cite, « en dehors de tout pouvoir et domination ». Est-ce qu'on y croit?
C'est merveilleux. Ouais, ok. Donc du coup, en fait, des cours d'empathie, ça devrait régler tous les problèmes. Mais sauf que, effectivement, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus souhaitable? Ça, c'est pas sûr.
Oui, elle dépolitise les souffrances parce que justement, elle renvoie à l'individu, au cercle affectif, ce qui est beaucoup plus large que l'individu, ce qui est systémique. Et elle la dépolitise aussi parce qu'elle ne propose pas de solutions politiques. Elle propose des solutions individuelles dans lesquelles on s'engouffre dans nos émotions, dans un travail émotionnel, tout en pensant avoir fait quelque chose pour l'autre, alors qu'en fait, on est juste préoccupé par son propre nombril.
Et oui. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Elle, en tout cas, elle a d'autres propositions, d'autres alternatives face à l'empathie, face à des cours d'empathie, et pour dépasser, justement, comme on l'évoquait tout au long de la lecture, nos biais moraux, tout ça. Et elle a d'autres solutions qu'elle propose plutôt que des cours d'empathie.
Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose des cours d'histoire et de politique.
Ah, bah tiens.
Pour ne plus parler des émotions, de comment on gère ces émotions à titre individuel, mais de parler de ces situations humaines qui génèrent de la souffrance, ces personnes qui souffrent, d'où vient la souffrance, quels sont les contextes qui conduisent à ces souffrances, quels sont les conflits, quelles sont les victimes, qui devra réparation à qui. Mmh. Elle donne l'exemple de ce qui a été prouvé, c'est que l'éducation au racisme chez les jeunes, de leur expliquer d'où vient le racisme, ça leur permet de devenir antiracistes et d'avoir des comportements prosociaux envers leurs camarades racisés, discriminés. Et dans ce cas, l'empathie que ces élèves ressentent envers leurs camarades discriminés, ce n'est pas le point de départ, c'est l'aboutissement de la compréhension des systèmes de domination et de leur injustice.
Mmh. Oui, du coup, comprendre un peu l'aspect systémique dans toutes les dominations, quoi. Et du coup, ouais, ça permettrait de pouvoir dépasser tout ça.
Plutôt qu'on fasse des formations à l'empathie, faisons des formations, justement, à l'histoire des discriminations. Et je ne donne pas une opinion là-dessus, je montre que c'est les études qui montrent qu'une éducation critique aux discriminations provoque l'empathie, finalement. On ne parle pas d'empathie, on ne suscite rien. On évoque la société dans laquelle nous sommes. Et c'est cette
compréhension,
cette
en fait.
Compréhension factuelle. Contextuelle, historique, c'est elle qui, quelques années plus tard, à 11 ans, on voit qu'il y a des comportements altruistes.
Et oui. Et du coup, évidemment, ça refait penser encore au traitement médiatique de ce qui se passe en Palestine. Évidemment, si on avait des contextes davantage, peut-être que la société israélienne et nos sociétés occidentales aussi auraient moins accepté le déroulement des événements qu'il y a eu après le 7 octobre.
Et une autre piste qu'elle proposait, c'était l'éducation non plus à l'empathie, mais aux médias, pour apprendre aux jeunes que une même information peut être cadrée de différentes manières et que ce cadre va amener à des perceptions différentes chez l'auditorice.
Et oui. Comme on disait tout à l'heure, le fait de ne pas poser son cerveau quand on est face à des médias, mais plutôt de les voir d'un œil critique. Et c'est sûr que... C'est sûr que ça aiderait beaucoup de savoir voir comment sont construits les discours pour pouvoir éviter de tomber dans le panneau de l'acceptation bête et méchante. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de musique ?
N'est-ce pas ?
On va s'écouter Deutsche Leichen, un morceau qui s'appelle Hardtack Leg Break. Et donc, du coup, pour finir notre émission de déjourer sur Radio Campus Grenoble 90.8, on parle toujours du livre de Saba Karaki qui s'appelle « L'empathie est politique ». Et du coup, elle parle aussi d'autres choses dans son livre. En conclusion, elle parle du fait d'accepter la culpabilité et la honte et de rompre avec le cadre hégémonique. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement ?
Accepter la culpabilité et la honte, ça veut dire reconnaître une part de responsabilité dans les relations de pouvoir. Accepter en tant que groupe dominant d'avoir causé du tort à autrui. Mm-hmm. Par aussi d'accueillir la colère. Enfin, si elle parle de ses émotions, c'est que c'est souvent des émotions pour lesquelles certains discours du développement personnel recommande de se détacher. Et elle dit que dans ces cadres, la honte, ça peut être sain, et la colère, ça peut être transformatrice et ça peut aider à concrétiser les sentiments d'injustice en actions significatives. Et rompre les cadres hégémoniques, ça veut dire proposer un discours alternatif au discours représenté dans cet univers médiatique dominant. Mmh. Et une dernière chose dont elle parle dans les solutions, c'est d'accepter de ne pas connaître complètement l'autre. Mmh. Je propose de lire la toute fin du livre. Le livre se termine par... L'empathie peut ainsi être réparée lorsqu'elle devient une empathie qui pose des questions plutôt que dicter des solutions, qui s'intéresse à la discorde plutôt que chercher l'affinité, qui assume l'histoire de l'autre et accepte que cette histoire la change plutôt que de raconter le monde à partir de sa propre vérité. C'est à partir de cette position inconfortable, dans laquelle on admet ignorer l'autre, que peut surgir le point de départ d'une véritable rencontre.
C'est beau. C'est très très beau. Eh ben, en fait, du coup, voilà, on arrive un petit peu à la fin. Et du coup, si vous avez envie d'en savoir plus, ben, on vous recommande du coup son livre, L'empathie est politique. Et si vous n'aimez pas forcément lire, ce qui est mon cas, vous l'aurez remarqué, eh ben, vous pouvez aussi retrouver un tas d'interviews d'elle, notamment les extraits qu'on a passés tout au long de l'émission. C'est les extraits d'une interview qu'elle a fait avec Blast. Du coup, voilà, vous pouvez retrouver ça librement sur YouTube. Et voilà. Et du coup, on va se quitter avec un petit point agenda car il y a des événements à venir. Et notamment, bah, on veut vous parler de la grève du 8 mars. Voilà, la grande manif féministe comme chaque année. Parce que voilà, ça reste nécessaire parce qu'il y a toujours beaucoup, 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 beaucoup de choses sur lesquelles se rassembler et manifester. Les violences au travail, les inégalités et aussi, bien sûr, tout ce qui se passe à travers le monde. Car être féministe, c'est aussi être sensible à tout ça. Et du coup, on vous propose, enfin, vous pouvez retrouver pour le départ de la manif, ce sera rendez-vous à 14h à l'arrêt Cité Internationale sur le tram B, c'est rue Félix Esclangon à Grenoble. Voilà, et du coup, ce sera 14h à la Cité Internationale. Donc venez nombreux, nombreuses, et on va faire une super manif, et ça va être chouette, et on espère que les choses bougeront avec le temps. Voilà, et ben, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
C'est tout bon, cher camarade.
C'est tout bon? Allez, et ben, on va vous laisser, du coup, on va vous rendre l'antenne, et puis je vous remercie chaleureusement, Ernest et Caro, d'avoir fait cette émission, et du coup, et ben, on se retrouve dans 2 semaines, le jeudi, de 19h à 20h, pour votre émission féministe préférée. Bisous!
Bisous! You know you go broke trying to handle me. Take it from someone who know how to handle me. I'ma need that real grown kind of energy. Do you know, do you know? Cause you're dealing with a lot of competition. You're gonna have to do a lot of ass kissing. You know I got someone with the time to listen. Tell me boy, do you know, do you know? Do it every night. Show me a good time. Yeah.
Treat me, love me, like I love me completely and deeply.